Et ce midi, dans ce débat 100% bruxellois, on va donc s'intéresser à l'arrivée de la 5G à Bruxelles. Et ce midi, nous en débattons avec vous, Céline Frémaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre bruxelloise de l'Environnement. Nous en débattons également avec vous, Wendy de Emptin. Vous êtes membre de l'association Ondes Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Nous en débattons également avec Floriane de Kerckhoff, la directrice d'Agoria Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, nous avons avec nous également le docteur Jacques Van de Straten, membre du Conseil supérieur de la santé. Bonjour.
Bonjour.
Alors Céline Frémaux, on va commencer avec vous, avec l'actualité. Au début de cette semaine, on apprenait que vous aviez trouvé un accord avec les différents opérateurs pour entamer les démarches en vue d'intégrer la 5G à Bruxelles. Donc l'idée, c'était de trouver un accord sur les ondes dont on avait besoin à Bruxelles, c'est ça ?
Alors le travail n'est pas évidemment été conclu cette semaine. Il y a un travail depuis maintenant plusieurs mois, puisque d'un côté, on a des opérateurs qui réclament une révision de la norme d'émission pour implémenter la 5G. Et puis, on a toutes les évolutions technologiques et la Smart City qui nous obligent en fait à penser, à fixer des conditions d'implémentation. On a une norme bruxelloise actuelle qui fixe un seuil d'émission à 6 voltmètres. Il faut quand même rappeler que l'OMS recommande des émissions maximum de 40 voltmètres et que donc les normes bruxelloises sont à ce jour 50 fois plus sévères que celles recommandées. Et donc avec le gouvernement bruxellois, on a décidé d'une feuille de route préalable à toute décision qui a pour but d'objectiver la demande qui était formulée et surtout fixer toute une série de balises environnementales et sanitaires, ce qui n'avait pas été le cas dans les travaux précédents sous les législatures d'avant.
Ok, donc la 5G n'est pas là demain, les balises sont mises, c'est ça l'idée.
La 5G n'est pas là demain, puisqu'il y a toute une série d'opérations qui doivent être faites préalablement, d'études, de balises qui seront mises, et donc il y aura en fait une norme qui pourra être adaptée, qui sera déclenchée le jour où elle sera là, avec encore aussi toute une série d'actes qui doivent être posés, puisqu'en fait le constat aussi a été fait par l'Institut belge des services de poste et télécommunications, que j'avais mandaté pour une étude, en leur demandant en fait quelles étaient les conclusions qu'ils pouvaient apporter par rapport au réseau aujourd'hui, et donc ce rapport en fait est sorti début de semaine en disant que les réseaux étaient saturés à Bruxelles au point qu'il n'était pas suffisant en fait pour développer la 4G déjà aujourd'hui, que la 5G était illusoire dans cette configuration-là et qu'on ne pouvait même pas remplacer une ancienne technologie, c'est-à-dire la 2G ou la 3G pour permettre l'implémentation de la 5G.
D'accord.
Partant de ce constat-là, il nous faut avancer, mais on ne peut faire qu'avec toute une série de balises qui sont fondamentales et qui n'ont pas été posées par le passé, donc c'est ma responsabilité aussi de baliser ce chemin.
Ces balises feront évidemment l'objet de notre débat. Alors on entend 2G, 3G, 4G, 5G. Floriane de Kerckhoff, au nom d'Agoria, je me tourne vers vous. Vous représentez ici un petit peu les opérateurs. Alors est-ce que vous pourriez expliquer simplement à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on a besoin de la 5G? On a l'impression qu'on a des smartphones, que tout se passe bien. Alors pourquoi cette nécessité d'avoir la 5G?
Mais donc chaque technologie a amené des avantages en plus évidemment. Donc par exemple la 3G a permis d'avoir Internet, la 4G a permis de regarder l'avantage de vidéo notamment sur les téléphones, et les 5G permettent vraiment une avancée en plus. D'une part, enfin certaines choses en tout cas, c'est le débit de data qui sera 100 fois plus élevé. La latence, c'est-à-dire le temps pour l'information d'arriver à l'appareil, sera beaucoup plus court. Et en plus, ces technologies utilisent beaucoup moins d'énergie. Donc on peut utiliser par exemple des capteurs dans des objets qui tiendront beaucoup plus longtemps.
Mais alors on a l'impression qu'on peut aussi changer des vidéos plus vite. J'imagine qu'on ne fait pas tout ce bruit pour pouvoir voir les choses.
Non, évidemment c'est beaucoup plus large que ça. Et on dit que la 5G sera une réelle révolution pour le consommateur, le citoyen, mais aussi pour l'industrie. Alors pour donner quelques exemples, bon, vous parlez des médias. Effectivement, là, il y aura des vidéos d'une précision et d'une qualité encore très supérieure. Au niveau, par exemple, tout ce qui est réalité virtuelle, on pourrait imaginer de voir un concert quasiment en live grâce à la réalité virtuelle. Dans le domaine de la santé, on peut imaginer des opérations chirurgicales à distance. On parle aussi de la voiture autonome, parce qu'évidemment, la voiture autonome, on ne peut pas se permettre d'avoir un réseau qui soit de mauvaise qualité et qui ne transmette pas directement l'information. On peut aussi imaginer des drones dans le domaine de la sécurité qui permettraient de mieux transmettre l'information. Ou pourquoi pas des hologrammes de policiers qui, en cas de vol, viennent directement sur place. Enfin, je pense que les applications sont assez larges. Et aussi dans le domaine industriel, dans tout ce qui est l'intelligence artificielle, par exemple, un robot pourra réagir de façon beaucoup plus précise. S'il y a une personne approche trop près du robot, de directement s'arrêter, par exemple, ou s'adapter. Donc, c'est vraiment essentiel pour le développement économique.
Économiquement, Céline Frémaux, c'est important pour la région de disposer de cette 5G.
Oui, mais pas que pour ça, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus biaiser le débat uniquement sur l'angle économique, même si évidemment que ce sera des retombées économiques importantes à Bruxelles. Didier Gozouin a travaillé avec les opérateurs pour estimer aussi le nombre d'emplois qui vont pouvoir être créés aux alentours de plus de 1000. Ce que je pense qui est important aussi, c'est d'expliquer en fait aux citoyens que la 5G, c'est pas uniquement utile à consommer de la vidéo sur Facebook, sur Instagram. Il y a toute une série d'aspects qui sont fondamentaux aujourd'hui. Si vous prenez la question de la mobilité, des voitures connectées pour permettre des gestions efficaces de trafic, donc éviter aussi d'avoir une pollution qui soit suraccélérée au niveau de Bruxelles. C'est effectivement sur le plan de la santé, des diagnostics automatiques, des chirurgies commandées à distance, le transfert de dossiers médicaux dans les ambulances, c'est du télétravail, c'est de la sécurité, de la téléprotection.
Et ça, pour vous, ça peut améliorer l'environnement alors ?
Mais ça pourrait avoir évidemment aussi un impact favorable sur l'environnement. Je pense qu'il faut voir les choses dans leur ensemble. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement a balisé qu'une feuille de route, ce qui n'a pas été simple non plus à réaliser, sur toute une série d'aspects qui étaient indispensables, les aspects environnementaux et sanitaires fondamentaux parce qu'ils n'avaient jamais été faits jusqu'à présent, intégrer par exemple le broadcast et toutes les antennes radio et télé qui étaient complètement en fait inopérantes dans la législation précédente. C'est les balises effectivement sur le plan économique, l'aménagement du territoire, la question de la fiscalité. Et donc il y a un travail de fond qui devait être fait, qui n'a pas été fait en fait jusqu'à présent.
Et sur le coût, alors qui va supporter ce coût, parce qu'on avait un auditeur qui nous laisse un message, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? On parle de problèmes de mobilité, il faut créer des écoles, est-ce que c'est vraiment la priorité? Qui va d'abord supporter ce coût?
En termes de coût, ce sont des investissements qui sont réalisés par les opérateurs télécoms, qui sont estimés à 150 millions d'euros, et on parlait de création d'emplois tout à l'heure, ils sont estimés à 1500 emplois directs et indirects au niveau bruxellois.
D'accord, la région ne met rien du tout?
Non, la région doit aujourd'hui faire une norme. Et cette norme ne peut être déclenchée qu'après encore un avis complémentaire de l'IVPT. C'est-à-dire de dire, voilà, la technologie aujourd'hui est au point. Donc c'est une norme qui va être là, qui ne sera déclenchée qu'à peu près tout un travail qui doit être opéré, puisque vous l'évoquiez vous-même, c'est 2020-2021. Mais aujourd'hui, la région a pris une décision de se dire, Bruxelles, capitale de l'Europe, par rapport à toute une série de considérations, évidemment, en matière de mobilité, en matière de santé, de télétravail, de smart city, ne peut pas louper ce train.
C'est une obligation européenne, d'ailleurs.
Mais c'est une obligation pour nous d'avancer, mais de le baliser de façon très forte, parce que je crois que c'est ce qui a manqué aussi, jusqu'à présent, dans les textes législatifs précédents.
Justement, ces balises au niveau des opérateurs, parce qu'on l'entend, hein, on a choisi 14,5, l'OMS préconise 41, on y reviendra après sur tout l'impact que ça peut avoir. Les opérateurs voulaient plus, j'imagine.
Donc, le rapport de l'IBPT dont parlait la ministre Frémaux tout à l'heure préconise entre 14,5 et la norme internationale de 41,2 vols par mètre. 14,5, c'est vraiment le minimum pour pouvoir commencer à lancer la 5G.
C'est suffisant pour les opérateurs ?
Pour commencer à lancer la 5G. Mais on voit maintenant, déjà la 4G, maintenant on est au plafond, on n'arrive pas à avancer davantage. Donc la 5G, il faudra revoir cette norme à terme également.
D'accord, donc ce ne sera a priori qu'un début, cette norme. Voilà pour les balises technologiques, un mot encore.
Mais juste ajouter une chose, que la norme internationale est aujourd'hui suivie par la grande majorité des pays européens. Donc il faut savoir, Bruxelles s'est mis aujourd'hui au niveau de la Flandre, mais encore, qui est encore 4
fois plus. La Flandre est encore un peu plus haut, oui. Elle est à 20.
La Flandre s'est mise un peu en dessous, mais plus ou moins au même niveau. Mais la Flandre est encore 4 fois plus sévère que la norme internationale.
D'accord, dans un instant, on débattra sur l'impact que pourraient avoir ces nouvelles ondes sur la santé, notamment. C'est la suite de Débat Première 100% Bruxelles.
Rejoignez le débrief.
Et on poursuit notre débat sur l'arrivée de la 5G à Bruxelles. Et après l'aspect technologique qu'on vient d'aborder, on va parler du côté santé, côté environnemental également, parce que cette 5G, elle fait peur, notamment à votre association, Wendy de Hemptin. Vous êtes la cofondatrice de Onde Brussels, vous êtes également physicienne de formation, et selon vous et votre association, eh bien cette 5G comporte de nombreux risques pour la santé. Alors, est-ce que c'est prouvé ça ?
Alors, je voudrais peut-être d'abord situer un petit peu le contexte dans lequel j'interviens, parce que j'interviens en tant que représentante de la société civile, qu'effectivement j'ai un bagage en physique, également en biologie, de par des formations que j'ai suivies, et que donc ça me rend à même d'aller lire et comprendre la littérature scientifique et l'actualité scientifique sur ces sujets. Alors, ce que je vais amener aujourd'hui, en fait, c'est finalement les préoccupations qui sont exprimées de manière grandissante à l'échelle internationale, qui sont exprimées au sein de la communauté médicale, au sein de la communauté scientifique également. Donc, ces préoccupations, elles résultent de deux choses. Non seulement des résultats de recherche, hein, et on ne parle pas de quelques études, hein, on parle vraiment de milliers d'études. Donc ça, c'est un volet. Et ces préoccupations ressortent également de ce qui se passe sur le terrain, avec finalement des personnes de plus en plus nombreuses qui se plaignent que leur santé est affectée par leur exposition électromagnétique. Il faut savoir que, de par les activités que je mène de sensibilisation et d'information sur ces sujets, je suis en contact très régulier, et de plus en plus d'ailleurs, je suis très régulièrement contactée par des personnes qui me disent souffrir physiquement de leur exposition électromagnétique.
Le lien est directement fait.
Et eux font le lien, parce que quand ils voient que quand ils sont exposés, ils souffrent. Quand ils se retirent pendant, parfois immédiatement, parfois pendant quelques jours, de l'endroit où ils sont exposés, ils se rendent compte qu'ils ne souffrent plus. Ils reviennent, ils souffrent à nouveau. Bon, donc ça c'est une chose. Je suis aussi en contact avec des apiculteurs qui me disent que ça a un impact sur leurs abeilles, qui voient disparaître des abeilles, qui n'arrivent juste plus à retrouver le chemin vers leur ruche.
Et on peut attribuer ça exclusivement aux ondes, j'imagine qu'il y a des multifacteurs.
Je ne veux certainement pas mettre tout sous le dos des ondes, mais effectivement, c'est multifactoriel. Il y a des effets cocktails, les pesticides interviennent là-dedans, mais on parle trop peu des considérations liées à la pollution électromagnétique. Alors je comprends évidemment parfaitement qu'il y ait des enjeux économiques, qu'il y ait des raisons technologiques pour lesquelles il faille passer à la 5G, qu'il faille déployer la 5G, qu'il faille augmenter les normes. Je comprends bien, mais ce que je veux préciser ici, c'est que l'aspect santé est trop peu considéré et que les bénéfices qu'on pourrait avoir à déployer une 5G aux dépens de la santé seront de toute façon éphémères. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il faudra faire machine arrière. On devra faire machine arrière, on le sait déjà à l'heure actuelle, et on voit sur le terrain que ça crée déjà des dommages au niveau des technologies existantes. C'est très très important que ce message passe, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout passé encore au niveau de nos décideurs.
D'accord. On va donner également une réponse, parce que donc ce message-là est passé, mais nous avons également avec nous Jacques Van der Straten. Alors, pour vous présenter, vous êtes médecin, vous êtes membre du Conseil supérieur de la santé, et vous faites également partie du groupe d'experts, qui a été créé par la région en 2014, qui doit plancher hein, sur ces ondes. Alors, même question, est-ce que l'impact sur la santé de ces antennes et de ces ondes est avéré?
Alors, j'ai fait partie en fait du groupe d'experts jusqu'il y a peu. Je voudrais dire d'abord ici que personnellement, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, pour me présenter auprès des auditeurs, je ne suis ni pour ni contre la 5G et je ne manque pas d'ouverture en termes d'hypothèses scientifiques. En ce sens que je mène moi-même des recherches sur les effets du champ magnétique terrestre sur la physiologie et ultérieurement peut-être sur la santé. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que j'entends bien en fait les plaintes dont se plaignent ou les inquiétudes que relaye Madame de Hemtin. Alors, il y a d'une part effectivement les plaintes que certaines personnes relayent qui sont qu'elles ne se sentent pas bien à proximité d'antennes GSM ou d'autres émetteurs d'ondes et qui est un phénomène qui est toujours à l'étude mais pour lequel on n'a pas encore scientifiquement pu apporter de preuves de causalité entre le rayonnement incriminé et les plaintes présentées par ces personnes. Maintenant, l'autre débat est celui quant à l'établissement des normes environnementales qui, lui, a déjà des balises très claires pour d'autres matières que les champs électromagnétiques. Et l'impression que l'on a, nous, médecins environnementalistes, c'est que par rapport à cette matière, on ne suit pas exactement les mêmes règles qu'ailleurs. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a, mais on peut en reparler, en fait, des règles simples qui visent simplement à repérer d'après l'ensemble des études quel serait un niveau réputé toxique et y appliquer des facteurs de sécurité tenant compte de différents critères.
Et là ces normes de l'OMS, ce 41,5, comment est-ce qu'on a choisi 41,5 pour l'OMS? Comment est-ce qu'on choisit 41,2, 14,5 pour Bruxelles, 20 pour la région flamande? Comment ça se fait, ça?
Oui, mais justement, l'OMS ne tient compte que des faits mesurables et applique un facteur de sécurité de 50 qui nous paraît quand même fort peu par rapport à ce qu'on applique par ailleurs. Et donc, l'OMS ne tient pas compte jusqu'à présent, et c'est vrai dans d'autres matières comme les champs magnétiques basse fréquence, des faits, comment dire, non pas mesurables par des faits physiologiques, mais de ces champs électromagnétiques, mais des faits observés soit au niveau expérimental à large échelle, soit des études observationnelles de population. Et donc on aurait tendance quand même à descendre plus bas effectivement. Par exemple, si on doit parler de la norme de 14,5 volts, on pourrait dire qu'elle correspond plus ou moins à un facteur de sécurité de 100 par rapport à un niveau qui serait réputé, je dirais, prudent en termes de seuil de toxicité. Et donc voilà qui rencontrerait déjà plus, en tout cas, les critères qu'on utilise dans d'autres matières de santé environnement.
Céline Frémaux, ministre de l'Environnement à Bruxelles, vous entendez, vous, ces craintes? Parce que on a Madame Demptin ici, mais effectivement, hein, on lit quand même pas mal de choses, on a des réactions aussi d'auditeurs. Vous comprenez ça? Est-ce que vous avez choisi cette norme à la légère?
Non, dans la mesure où si vous reprenez l'ensemble des éléments qui ont été fixés par le gouvernement bruxellois, les balises environnementales et sanitaires sont prises en considération, je vous le disais en début d'émission, ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Donc moi je suis plus que compatissante avec les personnes qui se déclarent effectivement électrosensibles et je reconnais les souffrances auxquelles elles peuvent considérer être exposées. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série de balises qui ont été mises qui ne l'ont jamais été jusqu'à présent. D'abord il y a un volet de communication sur la sobriété d'exposition dans la maison qui va être développée. C'est-à-dire fonctionnement, taux d'émission des appareils domestiques, aussi une explication d'usage et de méthodes de précaution pour favoriser la sobriété d'exposition. Avec Bruxelles Environnement, il y a tout un travail qui va être opéré très rapidement sur le développement d'outils d'éducation des citoyens bruxellois pour une bonne utilisation de ces nouvelles technologies.
Pas dormir à côté d'un GSM, ce genre de
choses. Je pense qu'il y a toute une série de choses qui doivent être dites et répétées et auxquelles il faut être attentif quand on est aussi parent d'enfants qui sont dans une surconsommation, notamment d'appareils de type GSM et autres. Il y a des conseils et des recommandations techniques pour réduire l'exposition aux ondes qui vont être développées et qui vont être disponibles sur le site spécifique de Bruxelles Environnement. Il y a des études aussi, ça, je veux le souligner, sur le diagnostic et la qualification du statut médical des électrosensibles qui vont être menés par la région, puisque visiblement le fédéral n'a pas beaucoup avancé sur la question jusqu'à présent. Et puis les opérateurs ont aussi accepté d'être mis à contribution dans le renforcement des mesures de contrôle sur le terrain pour garantir la norme. Et ça, c'est essentiel.
Garantir que l'émission ne dépasse pas.
J'ai eu d'ailleurs une série de personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit, tiens, on pense souffrir d'électrosensibilité, est-ce que vous pouvez venir faire des mesures chez nous? Et on le fait systématiquement. D'accord. Pour objectiver les choses. Moi, je suis à l'écoute, évidemment, de ce qui se passe.
Madame Demptin, ces balises ne semblent pas du tout vous rassurer.
C'est-à-dire qu'on balise un chemin, mais il faut baliser le chemin de la santé, évidemment. C'est ça la préoccupation. Donc j'entends bien Madame Frémaux qui veut mettre en place un certain nombre de balises. Je suis heureuse d'apprendre qu'il y aura des actions de sensibilisation qui seront menées. Ça fait déjà plusieurs années que je le demande. Je pense que c'est urgent de le faire. Mais on n'est pas dans une stratégie du donnant-donnant. C'est pas parce qu'on va faire des activités de sensibilisation qu'on doit autoriser un rehaussement des normes et une élévation de l'exposition une fois de plus. Pour rebondir par rapport à ce que M. Van der Straten disait sur les normes, donc je rejoins effectivement le fait que les normes de l'OMS sont basées sur des effets très limités. On parle d'effets thermiques, donc en gros les normes de l'OMS vont pour protéger de l'effet d'échauffement que subit un aliment dans le four micro-ondes.
D'accord, c'est ça comparaison est simple.
On est content et c'est déjà ça de prix. Mais c'est bien loin de ce qu'il faut pour effectivement protéger la santé. Et quand vous comparez,
on ne calcule pas les autres effets sur la santé, c'est
voilà.
Ça que vous
alors,
dites.
Alors il y a d'autres effets biologiques qui ont été abondamment mis en évidence et qui ne font plus de doute à l'heure actuelle, même si, je veux dire, l'existence d'autres effets biologiques ne fait plus de doute à l'heure actuelle. Et quand on tient compte de cela, et c'est ce que font les spécialistes, et par exemple l'Académie européenne de médecine environnementale, elle vous dit dans ses principes directeurs que la norme de 6 volts par mètre, enfin j'ai fait les comparaisons, hein, mais donc si on prend la norme de 6 volts par mètre, elle est 1000 fois supérieure à ce que recommande donc cette académie en termes d'exposition de jour, 10 000 fois supérieure à ce que recommande cette académie en termes d'exposition de nuit, parce qu'il faut protéger de manière préférentielle les expositions de nuit, et aussi 100 000 fois supérieure à ce que cette académie recommande pour les personnes sensibles. Alors parmi les personnes sensibles, il y a les enfants, il y a les fœtus, il y a les personnes électro-hypersensibles, il y a les malades chroniques, ça fait quand même déjà beaucoup de monde. Mm-hmm. Donc, très franchement, quand on dit que la norme à Bruxelles est 50 fois plus stricte que celle de l'OMS, mais qu'elle est 100 000 fois au-dessus de ce que recommandent les spécialistes, il est permis de douter du fait que la norme, le rehaussement à 14,5 volts par mètre, va apporter un bienfait à la santé des citoyens.
D'accord, docteur. Jacques van der Straten, on a l'impression que c'est un combat de normes. On a du mal à s'y retrouver. D'une part, on est 50 fois moins, donc plus strict que l'OMS, mais on est 100 000 fois moins. Quelles normes faut-il suivre? Est-ce qu'il y a une... c'est un combat de normes. Comment est-ce que dans votre rapport, par exemple, sur quelles normes vous vous basez?
Mais donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas que la population générale qui est, je dirais, surstimulée par une multitude d'informations diverses et en tous sens. Il y a aussi les scientifiques. Et de nos jours, c'est devenu un travail de spécialiste de compulser la littérature et de savoir parmi les différentes études publier ce que l'on peut effectivement revenir, c'est devenu un travail de spécialiste.
Il y a trop de littérature.
Il y a trop de littérature, il y a de plus en plus.
Mais on peut se dire, est-ce que c'est une excuse, je vais dire, on ne dit pas
non,
tout.
Donc c'est devenu vraiment un boulot de spécialiste, savoir que faut-il, que peut-on retenir, et on retient ce qui est reproductible. Il y a des critères qui sont quand même assez simples, mais il faut avoir le temps de faire tout ça. Et donc, par exemple, l'Académie européenne de médecine environnementale, j'ai appris récemment son existence, je ne la connaissais pas du tout. Voilà, ce sont des gens qui ont leur avis et qui font leur sélection de littérature, mais c'est pas comme ça qu'on fait. On doit prendre la totalité de la littérature et la passer à la moulinette. Et je peux vous dire que moi j'ai fait ça il y a des années pour un domaine, ça m'a pris une année, j'étais pas tout seul, je ne le ferai plus jamais, c'est devenu vraiment un travail d'équipe et de spécialiste, et donc ça n'est pas aussi simple que ça.
Mais je précise quand même que justement l'Académie européenne de médecine environnementale que j'ai citée, ce sont justement des spécialistes, et c'est justement un travail d'équipe qui est abondamment documenté sur des bases scientifiques. Alors maintenant, je voudrais quand même préciser,
oui,
par rapport aux études,
scientifique,
c'est que c'est très bien d'aller éplucher toute la littérature scientifique, et je vous rejoins entièrement sur le point que c'est un travail gigantesque, mais c'est pas tout d'aller faire des statistiques sur les études qui montrent quelque chose et les études qui ne montrent rien. C'est évident que ces résultats d'études qui montrent quelque chose ou qui ne montrent rien sont de nature totalement différente. Donc, les résultats d'études qui montrent quelque chose sont évidemment beaucoup plus importants à prendre en compte. Voilà, donc ça c'est pour préciser. Et alors évidemment, dans on.brussels, on a donné toute une série d'arguments qui documentent ce qu'on dit.
On y reviendra dans un instant. On poursuit ce débat dans cette troisième partie de débat première 100% Bruxelles. On se retrouve d'ici quelques suites en ce débat autour de la dangerosité ou non de la 5G. Je me tourne vers vous, Florian de Kerckhove. On parle beaucoup ici des normes, mais au niveau des opérateurs, on se pose ce genre de questions aussi. J'imagine qu'on n'y va pas les yeux fermés qu'en se disant il faut que notre technologie aboutisse.
Non, bien sûr, évidemment, les opérateurs sont désireux de respecter la santé et rester dans les normes qui sont définies par le pouvoir politique. Mais comme vous avez entendu, il y a énormément d'études dans tous les sens. Donc nous, on se fie vraiment aux études qui sont faites au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, où il y a un comité d'experts qui définit justement les normes maximum avec un principe de prudence, enfin de précaution. Et il y a maintenant, je sais qu'ils sont... Une consultation qui est en cours où les différentes personnes peuvent remettre un avis ou remettre leur point de vue et eux analysent les différentes études de façon approfondie. Donc voilà, nous, on respecte les normes, c'est une évidence. On suit ce qui est fait au niveau santé et on se base sur cette norme internationale.
On n'est pas dans un scénario avec l'industrie du tabac notamment qui n'informait pas. On y a une conscience de la part des opérateurs, vous avez l'impression.
Certainement, oui.
Alors, je vais me tourner vers vous, Céline Frémaux. Il y a une sortie ce matin de Christophe Lacroix, président du groupe PS au Sénat, qui va envoyer une lettre. Il va demander aux communes wallonnes et bruxelloises de ne pas installer de Wi-Fi dans les crèches par principe de précaution. Alors, ce principe de précaution, est-ce que quand on entend le débat, est-ce qu'il n'est pas de mise ?
Si vous reprenez d'ailleurs l'avis de l'IBPT, ce qu'il recommande justement, c'est par le principe de précaution d'être en fait au plus bas, au 14.5 et 9, et c'est exactement ce qu'on va faire. Moi, le principe de précaution, il a toujours guidé l'ensemble des politiques que j'ai menées sur le plan environnemental, que ce soit en matière de bruit, que ce soit en matière aussi de pesticides, on a eu l'occasion d'en débattre ici sur la question du glyphosate. Par contre, là où je ne rejoins absolument pas Christophe Lacroix, c'est quand il dit que rien n'est prévu pour les électrosensibles. Alors c'est peut-être vrai dans certains endroits, mais en tout cas c'est pas vrai à Bruxelles, et je l'ai expliqué par rapport à tout ce qui est programmé comme action en particulier, avec des contributions des opérateurs pour la santé et le contrôle de façon spécifique, avec la stratégie de politique d'éducation qui va être mise en place par rapport aux conseils et recommandations techniques. Maintenant, ce qu'il faut savoir à un certain moment, c'est qu'il y a un choix de société aussi qui doit être posé. Si on est contre, il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir dire, nous, on ne veut plus rien. Et au moins, les choses sont très claires. Parce que si on écoute un certain moment, si, et j'ai eu l'occasion de lire certaines demandes qui sont portées par les associations, on est à 0,6 voltmètres.
C'est votre demande,
on nous dit tout. Or, c'est ce que j'ai encore lu cette semaine. Si c'est ça le choix de société, j'ai pas de problème, mais il doit être exprimé très clairement.
Vous en êtes là ?
Alors, la demande n'est certainement pas de passer immédiatement comme ça à 0,6 volts par mètre. La demande, dans un premier temps, c'est d'installer un moratoire pour se donner le temps d'acter tout ce qui est discuté au sein de la...
De faire une pause dans la technologie.
De faire une pause dans la technologie et d'arrêter d'en mettre toujours plus avec des normes qui sont toujours plus hautes. J'ai dit ce que je pensais des normes, c'est abondamment documenté dans notre rapport. Je vous invite à aller prendre connaissance de cela.
Juste à 0,6, on peut faire quoi, Floriane de Kerckhoff ?
Pas grand-chose, je pense. Mais pour dire, j'entends ici que la norme est chaque fois augmentée. Il faut savoir que la norme d'émission était à la base fédérale, que ça a été, elle était à 20 volts par mètre comme la Flandre aujourd'hui. Ça a été régionalisé et Bruxelles, à l'époque, a décidé d'imposer 3 volts par mètre. Donc oui, elle remonte chaque fois parce que Bruxelles a été tellement bas qu'on ne sait plus rien faire.
Il y aurait une limite ?
Si je peux me permettre quand même d'intervenir, la norme en Flandre, donc le plafond est à 20,6, mais si je ne me trompe pas, par antenne, il y a malgré tout une limite de 3 volts par mètre. Alors c'est déjà très différent,
oui, ça ne change pas énormément.
De ce que...
Il faut quand même préciser aussi, c'est important, qu'il y a toute une série de choses qui ont complètement échappé à la norme de 3 et de 6.
Tout à fait.
Les 20 antennes broadcast qu'à Bruxelles émettent de façon large n'ont jamais été prises en considération. Et si elles vont pouvoir l'être enfin, et ça en termes de transparence par rapport aux citoyens, il faut aussi leur dire, il y a toute une série de choses qui échappaient complètement en fait à la législation jusqu'à présent.
Évidemment, je m'en réjouis, mais de nouveau, il ne faut pas être dans une stratégie de donnant-donnant. Ce n'est pas parce qu'on va mettre une norme sur le broadcast qui devrait être mise depuis très très longtemps qu'on peut se permettre d'aller ajouter encore une couche supplémentaire.
D'accord. Là, on a une réflexion que je vais vous adresser à vous, docteur Jacques Van der Straten. Une dame, médecin, qui est devenue électrosensible et qui apporte son soutien à toutes les personnes électrosensibles. Donc, elle, en tant que scientifique, elle dit qu'elle n'a aucun doute sur ce qu'elle vit. Depuis qu'elle est protégée des ondes, donc cloîtrée chez elle, elle ne peut plus aller nulle part. Ça lui la prive de vie, de sa liberté. Conclusion, vous rendez l'environnement malade. Si moi, je vis ce aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas à d'autres. Alors l'électrosensibilité, c'est une maladie qui n'est pas reconnue officiellement ?
Alors on a quelques difficultés effectivement par rapport à cette électrosensibilité, à la mesure où donc ce sont des personnes qui présentent des patterns des symptômes qui n'ont pas de pattern exactement, parce que la plupart des intolérances environnementales que l'on peut identifier existantes à des produits chimiques, des volatiles, des éléments chimiques ou physiques, ont un pattern, c'est-à-dire que le produit est toxique par rapport à tel système respiratoire, neurologique, etc. Dans l'électrosensibilité, ces personnes présentent des plaintes qui touchent tout et ne permettent pas une certaine systématique et une compréhension du problème. Alors il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites de perceptions, de provocations qui ont dans l'ensemble été négatives et n'ont pas permis d'objectiver, de corroborer en fait ce lien de causalité que la personne présente elle-même. Il existe maintenant un protocole alternatif intéressant pour les personnes électrosensibles que je conseille de contacter Sienne Sano. Madame Maryse Ledan démarre une étude qui s'appelle ExpoCom et donc avec un protocole qui sera établi en accord avec les les électrosensibles, voilà.
Donc,
les
ExpoCom pour notre auditrice à suivre. Alors, je vais peut-être venir avec une question un peu idiote, mais pour la cigarette, par exemple, on a des endroits où il n'y a pas d'interdit au tabac. Ici, cette dame dit, ben voilà, moi, s'il y a le wifi partout, je ne peux pas y aller. Est-ce qu'on peut envisager scientifiquement, est-ce que ce serait possible de développer le wifi à certains endroits et de faire des endroits free, on va dire, je ne sais pas qui pense pouvoir s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'on a déjà évoqué ces possibilités ou c'est simple, c'est partout ou nulle part? On n'a jamais réfléchi à ça.
On parle du wifi ou on parle
On parle des ondes alors, plutôt des ondes. On ne peut pas envisager des endroits...
Dans une ville comme Bruxelles, je pense que c'est extrêmement compliqué. Mm-hmm. Maintenant, dans le fin fond de la Wallonie ou dans le fin fond de la France, peut-être qu'il y a des endroits où il n'y a rien du tout.
C'est ça, mais on ne...
Mais il faut savoir que... Enfin, il y a cette question-là, mais d'un autre côté, au niveau wallon, le fait d'avoir un réseau de qualité, ça permet aussi un développement économique local. Un commerçant ne peut pas développer son commerce s'il n'a pas de GSM aujourd'hui.
Donc, c'est un choix de société.
C'est un choix de société, il faut faire attention aussi.
On pourrait choisir une ville sans ondes, mais on doit en assumer les choix. On doit seul, c'est un petit peu ça que vous souhaiteriez, vous?
Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est effectivement un choix de société. Maintenant, c'est un choix de société dont vous aurez compris, je dis, qui n'est pas durable. Parce que, simplement, si on ne tient pas compte de l'aspect santé, on ne peut pas tenir avec ce genre de technologie. Bon, alors maintenant, quelle est l'alternative pour le moment, en l'état actuel des choses? C'est évidemment d'investir massivement dans les infrastructures câblées et de sensibiliser les gens à l'usage de toutes les alternatives filaires.
Le téléphone fixe, alors revenir au téléphone
fixe. Diminuer la pression sur le mobile. Il faut maintenant mettre en place une diminution de la dépendance au mobile et passer par les infrastructures câblées, qui permettront par ailleurs des vitesses et des débits beaucoup plus rapides que ce que permettra la 5G.
Mais moins de mobilité, Céline Frébeau, c'est envisageable, ça?
On peut garder, je ne dis pas qu'il faut se passer complètement des technologies sans fil, je dis qu'il faut en faire un usage raisonné et un usage responsable.
Mais là-dessus, je vous rejoins parfaitement, puisque c'est d'ailleurs comme ça qu'on envisage le développement de la 5G et la question notamment de l'électrosensibilité. Par contre, ce que je peux difficilement concevoir, c'est comment est-ce que vous imaginez la ville demain? Moi, je ne suis pas du tout une mordue des nouvelles technologies, je le dis comme je le pense. Par contre, je pense que la capitale de l'Europe aujourd'hui, en matière de santé, en matière de mobilité, en matière d'emploi, doit pouvoir aussi répondre minimalement à toute une série de demandes. Je le vois, il y a aujourd'hui une secrétaire d'État au numérique à Bruxelles qui est sursollicitée par l'ensemble des partis politiques pour faire de Bruxelles une smart city. Donc, je pense qu'il y a un réel choix de société. Donc, on doit baliser, c'est la responsabilité. Le principe de précaution, je vous ai expliqué que je pense qu'il est largement respecté ici. Hein, j'aurais pu passer à 25, 30, 40 en venant sur la norme de l'OMS. C'est pas ce que j'ai souhaité faire. Par contre, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il faut pouvoir dire ce qu'on veut pour demain, pour une ville, pour une capitale de l'Europe, en mettant évidemment les balises sanitaires et environnementales, c'est une question de responsabilité collective pour l'avenir. Mais si aujourd'hui le standard c'est de retourner à 0.6, alors je ne sais pas dans quelle ville on va pouvoir évoluer et si c'est quelque chose qui est audible aujourd'hui par rapport à la région de Bruxelles.
Et selon vous, ça ne se fait pas au dépens de la santé, ce que ne partage pas la ville.
Si la question de la santé n'était pas prise en considération, je pense qu'on faudrait, à partir du moment où le travail a été fait extrêmement balisé et que la norme ne pourrait être déclenchée qu'après un avis de l'IBPT, qu'après en plus un travail du Conseil économique et social, du Conseil de l'environnement, du Conseil d'État, avec toute une série d'études qui vont être menées, avec un travail Bruxelles environnement, je veux dire, les balises, elles sont largement là, elles n'ont jamais existé jusqu'à présent. Jamais existé, je le souligne.
D'accord, et donc ces balises, alors Florian de Kerckhoff, il y a déjà des volontés d'aller plus haut ou pour le moment au niveau des opérateurs on va se contenter de ce 14,5 ou vous sentez déjà une volonté des opérateurs d'aller plus loin?
Mais on est en tout cas content que la norme ait été adoptée aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui était essentiel en tout cas pour faire de Bruxelles une ville 5G. Mmh. Maintenant, c'est vrai, si on voit de nouveau la plupart des pays européens à côté de nous, ils ont tous une norme de 41,2 vols par mètre.
On parle de la 5G en 2020, est-ce que en 2020 on n'aura pas déjà besoin de 25, de 30, de 40?
En tout cas, 14,5 permettra un premier déploiement de la 5G. Après, on verra.
D'accord.
Juste une petite chose qui est importante, effectivement, il faut bien regarder
15 secondes.
Oui, l'ensemble des normes qui sont prises sur le niveau européen. Mais je pense que l'Europe aussi, il faudrait le dire et le souligner, doit pouvoir se pencher sur la question de façon générale, parce que les enjeux de télécommunication sont d'envergure internationale.
Wendy Deftil, pour laisser la parole à chacun.
Oui, moi je voudrais quand même apporter encore un dernier message. Je veux dire que c'est pas juste l'affaire de quelques malheureux électro-hypersensibles qui vont devoir se mettre à l'abri. C'est notre affaire à tous. Mm-hmm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le vivant est électro-sensible. Donc c'est l'affaire de toutes les personnes qui sont sur le plateau et c'est l'affaire de toute la population.
Je rejoins la ministre. C'est vraiment une question en fait qui devrait idéalement être réglée au niveau européen.
Au niveau européen.
Parce que les gens ne sont pas plus ou moins sensibles à Bruxelles qu'en France.
On l'entend. Merci. C'est la fin. Le journal de 13h arrive. Le journal de 13h et ensuite ce sera un jour dans l'histoire.